France Culture. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Pour peu, il aurait pu figurer dans le livre du journaliste marseillais Philippe Pujol, intitulé « Cramé, les enfants du monstre ». Une enquête qui raconte le parcours de ces petites mains du charbon et de la vente de stupéfiants, les minots des réseaux qui constituent le prolétariat du trafic de drogue, lequel obéit à une des règles de base du capitalisme, générer un maximum de profits en exploitant la force de travailleurs sacrifiés. Ce sont donc des gamins qui commencent à guetter incroyablement jeunes. Celui qu'on va entendre aujourd'hui estime qu'il est entré très tard dans le réseau, c'est-à-dire à 13 ans. Et puis, ils vont prendre de plus en plus de risques, soi-disant monter dans la hiérarchie, mais jamais très haut non plus, dépenser n'importe comment de l'argent pas si facile et qui leur brûle les doigts. Ainsi, petit à petit, ils se crament en accumulant consommation de drogue, dettes contractées, peines de prison, violences commises et violences subies quand ils ne finissent pas assassinés ou terrorisant eux-mêmes de plus faibles que soi. Caïs, donc, aurait pu finir complètement cramé s'il n'avait pas croisé la route d'un éducateur qui a décidé de lui sauver la vie. L'histoire ne dit pas s'il réussira sur le long terme, les faits sont assez récents, mais elle raconte comment les deux en sont arrivés là, le minot et son grand frère. Et c'est Clément Baudet, notre grand reporter à nous, basé à Marseille, qui les a rencontrés.
Je m'appelle Caïs, j'ai 19 ans, j'ai grandi à La Paternelle, quartier nord de Marseille. J'ai eu une bonne enfance, j'ai grandi avec mes frères et sœurs. J'ai été élevé que par ma mère, moi. Ma mère, elle a fait les deux rôles, elle a fait le père et la mère. Après, en cours de route, ma mère, elle a décidé de partir de Marseille pour élever ses enfants, pas élever ses enfants dans un quartier où c'est rempli de points de gel, où c'est la galère. J'avais 5 ans. Après, à 10 ans, j'ai été placé en foyer. Et je rentrais chez moi que les week-ends, par rapport à mon comportement. Parce que j'étais un petit, j'étais plein de haine. C'est-à-dire, je me battais beaucoup, je bougeais beaucoup, j'étais un lien vrai hyperactif. Le petit teigneux de la famille. Après, j'arrêtais tôt l'école, j'arrêtais en 6e, 5e. Parce que j'ai commencé à travailler, du coup, j'y allais même plus. Un beau jour, je suis allé au point de Gilles le matin, avant l'ouverture. J'ai vu lui qui s'occupait arriver, je lui ai dit, je veux travailler. Moi, j'ai commencé tard. Il y en a, ils commençaient à 9 ans, 10 ans. Moi, j'avais 13 ans, la première fois. T'as pas la conscience du risque à ce moment-là. T'as même pas la conscience de la police, tu dis même pas que c'est mal ce que je fais. Je faisais le chouf. C'est le guetteur. Je suis assis sur une chaise et quand il y a la police, tu dois crier. Tu cries, aha. C'est un cri comme ça, ça veut pas dire quelque chose en particulier, c'est qu'il y a une merde. Le but c'est de prévenir ton collègue qui est derrière toi pour pas qu'il se fasse attraper. C'est tout. J'ai fait ça pendant un an. Pas que dans mon quartier, parce que après j'avais mes tantes, tout ça, c'est-à-dire des fois c'était compliqué, mais mes tantes, si elles me voient, elles vont appeler ma mère. Et ma mère, après, elle va venir me chercher, elle va me faire la crise, c'est-à-dire je partais, moi. J'allais un peu partout dans Marseille. Je sais même pas comment les journées passaient en vrai de vrai sur une chaise, et j'attendais toute la journée jusqu'à minuit, 1h du matin. Du coup, moi, je commençais à 10h, je finissais à minuit. La première fois que j'ai pris de l'argent, c'est avec ça. Je prenais 140, 130 par jour. Je m'achetais des habits, j'allais m'acheter à manger. Tout pour ressembler à un jeune de mon âge, c'est tout. Je claquais des 50 euros pour rien. J'achetais des tailles, des tas de survêtes. Je me suis fait virer du foyer, j'avais 14 ans. Quand je suis rentré chez moi, j'étais une autre personne, moi. Ma mère... Au début, elle avait pas de soupçons. Dans sa tête, elle se disait, je suis avec mes cousins, je suis avec... Et moi, vu que mes cousins ils faisaient ça, mes cousins me couvraient. Mes cousins, moi, ils étaient dedans, ils étaient dans le trafic. Ça veut dire, dès que j'y allais, je rentrais tard, tout ça. Ma Ma mère, automatiquement, elle appelle mes oncles, mon oncle, il lui dit « Ah oui, je l'ai vu, il était avec mon fils, t'inquiète, tout ça. » Après, ma mère, dans sa tête, elle dit « Il est avec la famille, ça la rassure. » Elle dit « Dans tous les cas, le soir, il va rentrer, il va aller chez son oncle, sa tante, et voilà. » On brouille les pistes comme ça, nous. Puis moi, c'est pour pas être un poids pour ma mère que j'ai commencé. Moi, ma mère, elle avait beaucoup de problèmes, moi. Elle devait réfléchir à trop de trucs. Et moi, ma mère faisait les ménages. Elle avait pas beaucoup d'argent. Moi, j'avais envie de l'aider, mais chercher des solutions. Elle a jamais accepté, même si j'aurais voulu donner, ma mère, elle accepte pas. Vu que ma mère, moi, elle avait beaucoup d'oubli, je mettais des billets dans le sac. Et je sais pas, je passais, je mettais 50, 30, 40, et je disais rien. Mais pas tout le temps, parce qu'après, sinon, c'est cramé. Je faisais ça des fois. Je trouvais toujours un petit moyen. Je faisais passer une copine à elle, elle lui passait. Je faisais passer par un grand, il lui donnait. Je faisais toujours passer par quelqu'un, jamais moi directement. Ta mère, elle te parle pas, mais tu la vois la réalité. Quand tu rentres chez toi, il n'y a pas grand-chose. Le soir, on mange que des pâtes. Tu sens que des fois, c'était dur. Il n'y avait pas trop de sorties. Dès qu'elle avait un peu, la pauvre, elle nous emmenait au cinéma. Elle nous emmenait là-bas pour essayer de nous faire kiffer. Mais c'était exceptionnel. Ma mère, elle travaillait, ça veut dire elle payait son loyer, elle faisait ses courses. Et voilà, après, il n'y avait plus d'argent. On attendait le mois prochain. Quand tu commences à grandir, tu as des besoins, tu as des envies. Quand tu commences à avoir 13-14 ans, tu vois tout le monde dit, tu vois les jeunes, ils sont bien habillés, derrière un prix de chaussures, et nanani, nanana. Et toi, tu arrives avec tes Adidas et ton survêt de Kappa. Tu te sens un peu, pas de moquerie, mais tu te sens pas différent, mais tu te dis, il y a un problème. Voilà, c'est ça, tu te dis, il y a un problème, et ton cerveau, il tourne après. Après un an, je suis passé vendeur. J'avais 14 ans quand j'ai arrêté de guetter et j'ai commencé à vendre. C'est toi qui as la sacoche et c'est toi qui vends. Plus de risques, mais plus d'argent. Tu connais les risques, tu sais qu'il y a des risques de se faire attraper, donc tu fais attention. Mais non, t'as juste la boule au ventre de la journée. Tu sais pas à quel moment ça rentre, quand ça crie et tout. Tu te caches dans l'appart là-bas, tu as peur. Sinon, je me levais à 8h. J'allais prendre un petit déj, je mangeais bien. Comme ça, j'étais réveillé. Au rituel, je faisais quoi? Je disais, bon matin, je prenais une pizza frite. Et je me mettais dans la tour. Et je vendais. Tous les matins, j'ouvrais. Comme un mec qui ouvrait un magasin. Il ouvrait les rideaux, il préparait les rayons. Ben là, c'est pareil. Je faisais mes comptes. Je prenais ce que j'avais à prendre. Je comptais tout bien et je commençais ma journée. J'avais du shit, de la beuh, de la coke. Voilà. Ben à ce moment-là, non, je consommais toujours pas. Je fumais des cigarettes pour faire passer le temps. Je fumais une cigarette et elle me faisait tourner la tête, je la jetais à la moitié. Mais sinon, la journée, tu es avec tout le monde, tu rigoles, ça tire. Juste, tu vends, toi. Il y a quelqu'un qui s'occupe de te ramener les affaires, il y en a qui s'occupe de venir récupérer les sous. C'est... Toi, t'es en haut, tu vends, tu comptes si tout est carré, c'est tout, tu fais rien d'autre. Tu dois tout compter. Et là où je travaille, je faisais, ouais, c'est 40, 50 000 euros au jour. Après, même quand, comme je vous dis, après, on était tous des amis, ça veut dire même s'il y a un petit problème dans les comptes, tout, il te dit, ah, tu as fait un petit strike, je l'ai rebouché, c'est rien, juste la prochaine fois, fais attention. J'ai tout vu, tout type de catégorie sociale, des gens costards, des gens riches, des pauvres, des clochards, des mères de famille, des pères de famille, des gens qui sortent de la mosquée. De tout, vous croisez de tout et de n'importe quoi sur un point de ville. Plus le matin, quand tu les vois arriver en costard. Mais moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Parler avec un bon langage, tout ça. Moi, je n'ai pas l'habitude, moi. Ça veut dire, c'est quoi? Je sais pas, je les voyais, ils me faisaient bugger. J'ai pas envie de faire une généralité, mais la plupart, ils prenaient de la coke, je te dis la vérité. Par jour, ça me faisait 300, 350 dans ma poche. Après, tu grandis. Quand tu grandis, plus de besoins. J'ai rien gardé de cet argent. Je faisais n'importe quoi. J'étais un gros dépensier. C'est-à-dire que je pouvais prendre 350 euros le soir, et le lendemain, tu me revois, il me reste 60 euros. Je zone toute la nuit, je fume, tu manges, tu fais tout. Je faisais des locations de voitures. Tout ce qu'on pouvait louer, on louait. On a déjà loué des Porsche, on a fait bordel avec l'argent, c'est la vérité. On était une petite équipe, on était toujours ensemble. On finit la journée, il est minuit, on loue une voiture, allez, vas-y, je sais pas, on va aller là-bas, on va aller voir des filles, on va aller faire ça. bougeait beaucoup en fait. En Espagne, on allait de partout, on allait. On allait à la Jonquera, le Paradise, tout ça. C'est les maisons de filles de jour. 4 heures de route. Ouais, 4 bonnes heures si tu roules vite, ouais, en 4 heures. On faisait l'aller-retour, on y allait, on revenait, c'était 6 heures du matin, on dormait 2-3 heures et on allait travailler. Mais pas tous les soirs. C'était rare, c'était une fois dans le mois. C'était pas tout le temps. Moi, cette période-là, là, 14, 15 ans, c'était mes meilleurs souvenirs. Enfin, j'étais en roue libre. Et pendant le Covid en 2020, j'étais vendeur et c'était la meilleure période. Il n'y avait pas de police. Ça ouvrait à 9h, ça fermait à 20h. Le point de Gilles. Et tu prenais tes 350 euros. Tu travailles de 9h à 20h. C'est quoi 9h, 20h, 300 euros? Après, t'as toute ta soirée. J'ai jamais vu autant de clients que pendant le Covid. C'était à la chaîne, ça s'arrêtait pas. J'arrivais pour ouvrir, tu voyais une file de clients, ça s'arrêtait plus, des voitures garées de partout. C'était un bordel. J'ai grandi, j'arrivais à 15-16 ans et c'est là que c'est parti en couille un peu. L'argent. Tu vois, quand une soirée, tu dépenses tout, tu te dis, vas-y, il faut que je fasse plus. Ça veut dire que tu te mets encore plus dedans jusqu'à ce qu'on te propose un autre poste. Pour monter, c'est eux qui te proposent. Ils te disaient, si tu veux faire ça, tu peux maintenant. Après, si tu veux pas, tu veux pas. Ils aimaient bien les travailleurs sur le long terme. Ceux qui restaient longtemps. Quand tu restes longtemps, là, tu peux vite monter. Et voilà. Je suis monté. Après, il y a eu une grosse, un grand nettoyage, on va dire. Il y a eu une guerre, il y a eu beaucoup de morts. Je vais pas vous faire un dessin, vous avez entendu parler, de toute façon, et ça a fait du bruit. On a tous dû choisir un camp. Quand tu vas travailler pour lui, tu peux plus aller travailler pour lui. C'est-à-dire que tu oublies de rester là-bas après. J'avais 17 ans quand ils m'ont proposé de faire la sécurité du point de Gilles. J'étais vendeur après gérant, et moi, on m'a proposé de faire ça, et ça rapportait plus. Vu que ça rapportait plus, j'y suis allé. T'es là, je fais en sorte que le point de Gilles il soit sécurisé, qu'il n'y a personne qui vient de tirer, il n'y a personne qui fait bordel, que le point de Gilles reste calme. Moi, j'avais une Kalachnikov cachée, et s'il y avait un problème, je devais régler le problème. C'est aussi pour pas qu'un concurrent vienne choper le point de Gilles. Ton but, c'est de les faire fuir. J'ai appris sur un parking comment tirer, comment recharger. Tu te sens fort, tu te sens puissant après, à ce moment-là. T'as une arme entre les mains. Je crois que tu es le roi du monde. J'avais pas peur. En fait, je sais pas, j'avais pas peur, j'étais pas conscient. C'était plus ça. J'ai fait ça pendant 2 ans et un beau soir est arrivé où c'était la nuit, c'était 2-3 heures du matin. Il y a une voiture, elle est venue, elle a tiré de partout. Mon vendeur, il s'est fait tuer. Moi, je me suis pris une dame. Parce que moi, je suis sorti. La voiture, elle est arrivée, elle a commencé à tirer. Et moi, il y avait mon vendeur devant moi. Mais vraiment devant moi. Ça veut dire, c'est lui, c'est tout pris. S'il n'aurait pas été devant moi, je serais mort, moi. J'ai la vérité. Ça veut dire, il s'est tout pris, il est mort. Et moi, je m'en suis pris une dans la jambe. Comme je suis tombé, j'ai fait le mec qui me réveillait pas. Après, la voiture, elle est partie. Ça se passe en 3 secondes. Elle vient, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, et elle part. J'ai cru que j'allais mourir, moi, la vérité. J'ai pris une balle à la jambe, au genou. Les autres collègues, ils descendent, ils m'ont ramené à l'hôpital et c'est tout. Je suis sorti de l'hôpital, il n'y avait plus de retour en arrière. J'ai plus la haine qu'autre chose. De la haine, moi, beaucoup de haine. Plus de retour en arrière, c'est tout. Ah, j'ai pas trop envie de parler ça. Il s'est passé 1 an. Après 1 an, je me suis fait attraper. On m'avait envoyé hors de la région, hors de Marseille, faire la sécurité dans une autre ville. J'étais dans un appartement et on m'a attrapé avec 1 kilo. 1 kilo de shit. Je venais d'être majeur. Moi, je savais que ça allait arriver dans tous les cas, un jour ou l'autre. Ça veut dire que quand ça arrivait, j'étais même pas étonné. Moi, j'ai accepté ma peine, j'ai fait ma peine et... Et voilà. J'ai pris 8 mois et j'étais incarcéré dans la région de Montpellier. Je suis parti chez moi, j'avais 16 ans. Ça veut dire que coupure avec ma mère, 2 ans après, j'étais en prison. On l'appelle, on lui a dit ton fils il est en prison, ça veut dire qu'elle était déçue. On était assis en cellule. Quand il t'ouvre la porte et... Tu vois, vous êtes 5, plus toi 6. Tu te dis quoi, je vais dormir par terre là? Ça marche pas comme ça. Faut s'imposer, c'est tout. C'est la jungle là-bas, ça veut dire... Soit t'es le mouton ou soit t'es le loup. Et moi, j'ai trop de dignité pour être un mouton. Après, en détention, tu réfléchis pas trop. Quand t'as ton téléphone, tu fumes, tu manges bien. Tu te dis, oh, ça, c'est de l'eau. Ça veut dire, c'est de l'eau, c'est facile. C'est plus quand je suis sorti. Quand je suis sorti, que je me suis retrouvé le jour même sur un point de deal, ça m'a fait un petit truc. C'est pas normal, là. Normalement, tu sors de prison, tu pars. J'avais pas de domicile, j'avais rien. Moi, on m'a assumé toute ma détention, je me sentais pas de sortir en demandant encore qu'on m'assume. Non, ça y est, tu dors, tu te débrouilles, en vrai. Ça veut dire, moi, dans ma tête, c'était ça. C'est-à-dire que je suis sorti et je suis retourné sur le point de vue pour me payer une nuit d'hôtel, payer mon manger, mes cigarettes et basta. Et c'est là où j'ai croisé Mohamed, mon éducateur. Je l'ai connu, j'étais petit. Moi, je l'ai connu, j'avais 8-9 ans. Il connaissait bien ma famille. Il a pris sa moto, il est venu me voir. Il est venu, il m'a tapé un peu la crise. Il m'a dit, tu sors de prison, il y a 3 jours, t'es sorti, tu es ici, tu n'as rien compris. Il m'a dit, bon, tu as fait ça parce que tu n'avais pas le choix. Il m'a dit, maintenant, vas-y, tu es avec moi, tu as le choix, donc arrête. Il m'a dit, si tu veux rester là-bas, reste. Mais si tu venais avec moi t'en sortir, tu viens. Du coup, je suis allé avec lui. Avant, moi, personne ne m'avait tendu la main pour sortir de là. Là, il y en a un, il me l'attend. Pourquoi j'essaierai pas de la saisir, même si ça marche pas? Au moins, je pourrais dire que j'ai essayé. Et voilà, il m'a pris. Il m'a dit, tu viens dormir à la maison. Mais en échange, je dois tout arrêter. Et c'est ça le contrat. Tu viens à la maison, mais tu fais plus rien.
Mohamed Benmedour, 37 ans, médiateur dans les quartiers de Marseille, en charge de la prévention et de la réinsertion des jeunes en difficulté. Caïs, je me rappelle très très bien de lui. Il avait 7-8 ans. Je connaissais bien sa maman. Et parfois, ça m'arrivait de le garder. Il jouait avec mon petit frère. Il avait déjà un sacré tempérament déjà pour son âge. Mais en même temps, il était très très attachant. J'aimais bien des fois lui pincer les joues et je lui faisais des petits bisous parce qu'il était tout mignon. Je voyais qu'il avait quand même une énergie... à dépenser, qu'il fallait le canaliser. Donc j'avais commencé déjà à l'époque à la ramener dans ma salle de boxe. Par la suite, je ne voyais plus sa maman et je ne le voyais plus. Et en fait, je le retrouve il y a peu de temps via un réseau social. Il m'ajoute, il m'envoie un message et je le reconnais pas du tout. Et il me dit, non mais c'est moi, c'est Caïs, tu te rappelles pas le fils à Intel, tu me gardais. Oh oui, c'est vrai. Il était incarcéré, donc je discute avec lui et je vois que c'est plus le bébé que j'ai laissé. Hein. C'est un délinquant bien endurci, bien ancré dans le trafic de stupes. Ça m'a fait, j'avoue que ça m'a fait drôle, mais il a gardé ce respect en fait, ce respect qu'il avait envers moi. Et donc, il me raconte son parcours, il me raconte sa détention et il me dit qu'il est proche de la fin, mais il ne me dit pas tout, c'est-à-dire qu'il ne m'avoue pas qu'il n'a aucune perspective ni de logement ni d'insertion professionnelle à l'issue de sa détention, et en même temps il ne se plaint pas de son sort. Malgré cela, il assume ses conditions de délinquant. Il n'était pas là à pleurnicher en disant non mais j'ai rien, non mais j'ai besoin qu'on m'aide, non, au contraire, il n'a pas demandé d'argent, il m'a rien demandé. Il m'annonce sa date de libération qui est proche, donc début janvier. Et en fait, 2 jours après, quand je propose d'aller le voir, il me donne rendez-vous dans un quartier. Et à ce moment-là, j'arrive dans ce quartier-là et je le vois sur le point de deal, bien sûr, en train de vendre du stupéfiant. C'est là où je m'inquiète parce que je me dis que s'il est interpellé, ça va être immédiatement à la casse-prison et ça ne sera pas 8 mois, ça sera au minimum 18 mois, 2 ans de prison. Et ça c'est certain, quoi. Et je le confronte vite face à la réalité. Et de suite, il entend. Il ne me dit pas, ah non, mais je m'en fous. Oh, la prison, ça me fait pas peur. Non. Mais après, je me rends compte qu'il y a une réalité qui est plus ou moins critique et alarmante, où ce jeune-là était mieux en prison, avait une meilleure situation en prison parce qu'il avait le gîte et le couvert et une activité, que dehors. Parce que dehors, il n'avait rien. Pas de toit, pas de nourriture, pas de revenus, rien. Donc c'est là où je me dis, mais enfin, franchement, ça craint. Ça craint. Je saisis les services de la préfecture, je signale sa situation, je demande un accompagnement d'urgence. Ensuite, je le prends avec moi chez moi et je vois que ça bouge pas plus que ça. Et puis, j'ai cogité tout le week-end. Ça m'a particulièrement agacé et même énervé. Caïs, en fait, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire que j'ai croisé pas mal de jeunes que j'ai accompagnés ou que j'ai croisés dans des structures dans lesquelles j'ai travaillé. J'ai tellement vu la mort et la prison autour de moi que j'ai tellement de peine, en fait, pour ces jeunes-là, parce que je sais ce qui les attend. Si tu prends pas une balle dans la tête, tu vas prendre des mois ou des années de prison et au final, tu vas ressortir avec 0 €. Ah, je dis, c'est bon, là, j'en ai marre. Donc, je disais à Caïs, tu sais quoi? Personne nous écoute. Est-ce que tu serais prêt à venir avec moi? Moi, je suis déterminé. Je vais dormir devant la préfecture. Et je vais pas manger jusqu'à ce que les pompiers me ramassent devant la préfecture, devant les journalistes. Comme ça, au vu au sud de tout le monde, on aura vu notre désarroi et notre cri d'alerte. Donc il vient avec moi et on prend le lit deux lits de camp, on prend des bouteilles d'eau et on commence à camper devant la préfecture. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un retentissement et un élan de solidarité à travers pas mal d'anonymes qui sont venus nous rencontrer, qui m'ont contacté via les réseaux sociaux et qui ont été particulièrement attristés de la situation de ce jeune. Et on a fait cette grève de la faim. Et donc, tout s'est débloqué à une vitesse hallucinante. Les services de la préfecture ont pris le dossier de Caïs et ils ont pu trouver une place dans un foyer qui est dédié à ce genre de placement. Et c'est là où je me dis, mais je vois un Caïs qui a une réelle envie de s'en sortir, qui est déterminé et qui dit « j'en ai marre, je veux pas retourner en prison, je veux pas me faire tuer ». Il est blasé en fait de cette vie de délinquant et je pense que on l'arrêtera pas. Après c'est difficile, le plus dur c'est de tenir dans le temps. Moi j'ai connu des personnes qui ont récidivé des fois des 5 ans après. Beaucoup de ces jeunes-là sont en manque d'amour, d'affection. Il faut continuer à leur dire qu'on les aime. Il faut continuer à aller les chercher, leur tendre la main. Il faut continuer à leur dire, mais écoute, moi, je te juge pas. Peu importe ce que tu as fait, je serai là pour toi. Et il faut leur montrer qu'on a confiance en eux et qu'ils peuvent avoir un avenir meilleur. Caïs, moi, la relation que j'ai avec lui, c'est la relation, bien évidemment, du grand frère au petit frère, la relation de l'éducateur au jeune qui veut s'en sortir. Il y a toujours quand même cette barrière parce qu'il faut garder cette barrière. On n'est pas copains, mais je le suivrai jusqu'à ce que je serai convaincu de sa réinsertion totale, c'est-à-dire peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est long et fastidieux, mais il faut être patient. Quand Caïs reviendra me voir avec sa femme et ses enfants, je serai totalement apaisé. Je me dis qu'il n'y a plus besoin de prendre ses nouvelles. Je dirais, fais ta vie et envoie-moi un petit message de temps en temps pour les fêtes de Noël ou pour la nouvelle année.
On peut dire que c'est la bonne étoile. Il arrive au bon moment parce que s'il ne serait pas venu, j'aurais pas arrêté, moi. Il avait ses mots à lui, il me connaît bien, moi, il connaît bien ma vie, il connaît bien ma famille, ça veut dire il avait les mots. Ça m'a fait tourner la tête. Moi, je le considère comme mon grand frère, moi. Comme un grand frère, comme un oncle. Parce qu'en vrai, j'ai gambergé. J'ai réfléchi, je me suis dit, en vrai, de vrai, depuis que je suis petit, je suis là-bas. Ça y est, j'ai fait mon temps, moi, en vrai, de vrai, ça veut dire... J'ai fait mes bêtises, j'ai fait bordel, je suis rentré en prison. J'ai vu, moi, que cette vie, elle était pas si joyeuse, ça veut dire... On va essayer autre chose. Rencontrer des nouvelles personnes, changer d'environnement, avoir une vie normale, plus lever avec cette boule au ventre. Comme tout le monde, avoir une vie comme tout le monde. Une vie banale. C'est pour ma mère. Dans sa tête, elle a l'image de moi de son fils qui vend de la drogue, qui fait bordel. J'ai envie qu'elle ait une autre image de moi. Qu'elle dise dans sa tête, mon fils est un travailleur, c'est un homme bien. Moi, si j'ai un travail, moi, je raiderai directement ma mère. Parce que là, ce sera de l'argent propre, ce sera plus pareil. Elle me réacceptera, elle essaiera de me reparler, tout ça, tout ça. Bon, ma mère, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vue. Mais bah, j'ai enchaîné les boîtes d'intérim, j'ai enchaîné les CV. C'est nouveau, ça, je n'ai pas l'habitude. C'est fatigant, en vrai, de vrai. Après, il n'y a pas le choix. Moi, j'y crois, moi. Mais si je n'y croyais pas, je ne serais pas là. Déjà, le jour où je trouverai une formation, un travail de sûr, là, ça me rassurera déjà toute ma tête. Je me dirai, vas-y, c'est bon. J'ai déjà ça, c'est-à-dire que je vais me débrouiller avec ça et j'essaie de me lancer avec ça. Mais j'espère ne pas mourir. Les histoires de la rue, ça rattrape un jour ou l'autre. Si je pouvais tout oublier, j'oublierais tout. Moi.
C'était Caïs, le réseau et son éduc, un reportage de Clément Baudet réalisé par Éric Lancien. Merci à Caïs, à Mohamed, à Karima Mézienne, à Laurence Bellon et à Sylvie Brouleau. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Mina Morel. C'est tout le cas, arrive.